informé en écoutant Que Québec se lève.
Avec Myriam Segal, Pascal CV et Alexis Sanson.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Au FM 93.
FM 93. Ça me parle. Ça me parle.
7h en ce petit dimanche matin qui commence pluvieux mais qui va bien finir, je vous le promets. Pascal CV, Alexis Sanson avec nous. Ce matin, à Que Québec s'élève, Ali Yacine domme et prend des leçons. Comment les menus de restaurants nous manipulent psychologiquement? Et les musulmans ont enfin leur cimetière à Québec. En tout cas, bientôt.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
FM 93, ça me parle.
Pascal, aux nouvelles.
Oui, c'est intriguant et malheureux là, comme première nouvelle. Un homme de 69 ans qui est décédé hier matin après avoir fait plusieurs tonneaux et avoir été éjecté de sa voiture. Les policiers sont intervenus après qu'un citoyen ait constaté l'accident à l'extrémité du viaduc sur le boulevard des Chutes au-dessus de l'autoroute du Frey-Montmorency. L'heure exacte à laquelle l'événement serait survenu est inconnue des autorités puisqu'il n'y a aucun témoin direct de l'accident. Selon les premières informations, le véhicule aurait circulé sur le boulevard des Chutes en direction sud, aurait terminé sa course au bout du viaduc où se trouve un belvédère là, avec des escaliers menant au bord du fleuve.
Il arrive vite où il y a eu un malaise puis il n'a jamais été capable de freiner.
Heureusement, on le saura plus tard. Il y a une enquête qui est en cours, bien sûr, pour éclaircir là, les circonstances de l'accident. La communauté musulmane de Québec aura finalement son cimetière. Boufedja Ben Abdallah, cofondateur et président du Centre culturel islamique de Québec, a confirmé la nouvelle hier. Il a indiqué avoir reçu jeudi l'autorisation du ministère de l'Environnement quant à l'utilisation d'un terrain vendu par la Ville de Québec en 2017. Il ne reste plus qu'à signer les papiers d'achat avec la Ville de Québec, ce qui pourrait être fait dès cette semaine. Et finalement, c'est ce soir la 34e édition de la cérémonie des remises des prix Gémeaux, les trophées décernés à l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Récompense l'excellence de la télévision francophone au Canada. La cérémonie se tiendra au Théâtre Saint-Denis à Montréal et sera animée par Véronique Loutier.
Ouais, ben dans le monde du sport, il y a pas ben de meilleures nouvelles. Je veux dire, quand si vous demandez les résultats sportifs, ça a l'air de quoi? Tout le monde a perdu. Le Rouge et Or a perdu hier 23-18 face aux Carabins. Dans le monde du football, toujours, les Alouettes de Montréal ont perdu 27-25 face aux Rough Riders de la Saskatchewan. Et l'Impact de Montréal a perdu 1-0 face au FC Cincinnati hier, la pire équipe de la Ligue. Et ainsi voit ses chances de faire les séries assez réduites. Merci. Sinon, ailleurs dans le monde de l'actualité sportive, après la Fédération internationale de hockey, c'est au tour de la Ligue nationale de hockey de suspendre Evgeny Kuznetsov pour avoir échoué un test antidopage. L'attaquant des Capitals de Washington est sanctionné 3 matchs par la LNH. La Fédération internationale, elle, a suspendu le joueur russe pour 4 ans après qu'il y ait de la cocaïne qui a été détectée dans un contrôle antidopage qui a été effectué lors du championnat mondial de hockey en mai dernier. Et dans la NFL, malgré les accusations de viol qui pèsent contre lui, Antonio Brown pourrait être en uniforme pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre cet après-midi pour affronter les Dolphins de Miami. Son nom n'a pas été inscrit sur la liste d'exemption du commissaire. C'est la liste là, à partir de laquelle les joueurs peuvent pas jouer. Donc, il n'y a rien qui empêche Brown de jouer. Et il a fait le voyage avec l'équipe, ce qui laisse croire vraisemblablement qu'il sera du match cet après-midi.
Et du côté de la météo, normalement, la pluie qui tombe devrait s'arrêter dans 26 minutes. Pas 24, pas 25, pas 27.
26.
26, selon AccuWeather. Puis, il devrait y avoir un autre petit épisode de pluie aux alentours de 13 heures. Ça, c'est selon AccuWeather. D'après Environnement Canada, il y a une alternance de soleil et de nuages aujourd'hui. Actuellement, on est nettement plus dans les nuages, puis les gros nuages gris menaçants par ça. 40% de probabilité d'averse ce matin. On peut dire qu'elles se sont avérées, les 40%. On peut-tu passer à d'autres choses? Les vents vont devenir à 20 km/h tôt ce matin. Le maximum aujourd'hui sera de 19, mais donc ça devrait se dégager par la suite. Peut-être qu'on aura une autre averse aujourd'hui, mais on devrait s'en tirer avec une majorité de la journée agréable. Disons pas merveilleuse, mais agréable. OK? Demain, alternance de soleil et de nuages, 18 degrés de maximum, puis ensuite, là, ensoleillé, 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 ensoleillé. C'est de valeur, hein? Vous travaillez, moi aussi. C'est parfait. Pascal, qu'est-ce qui retient ton attention ce matin?
Oh, après cette annonce de soleil positif, je vais aller un peu dans le négatif. C'est encore une histoire qu'on nous cache au tribunal, mais pour des bonnes raisons quand même, pour préserver l'identité des victimes, puis aussi attendre les accusations officielles, mais surtout le fait de plaider coupable. Encore l'histoire d'un couple, la fille vient du Québec, l'homme vient d'Algérie, ils se rencontrent, tombent en amour, s'en vont dans le pays de l'homme, là où s'ensuit, bon, une grande, comment on dit, mettons, pièce de théâtre pour dire à quel point je t'aime, je suis un homme merveilleux, pour finalement devenir...
Ben, il l'était peut-être.
Oui.
Mais il l'était peut-être à ce moment-là.
Mais moi, j'ai de la misère à croire que tu peux avoir deux personnalités comme ça, là, parce que quand ils reviennent au Québec après s'être mariés et tout ça, bon, il devient un monstre. Il devient quelqu'un qui s'occupe pas d'elle, qui s'en va toujours avec ses amis avant d'être auprès de son épouse maintenant. Tombe enceinte, premier enfant, tombe enceinte, deuxième enfant. La relation devient de plus en plus complexe et houleuse.
Il prend du crack.
Oh oui, en plus.
Il prend du crack. Moi, je pense que ça joue un grand rôle.
Certainement.
Dans le gâchis auquel ça va mener.
Certainement. Puis là, bon, vous comprendrez que c'est pas nécessairement un couple qui est sain. La police a dû intervenir à de multiples reprises auprès de ce couple-là. Et même que la police, mais ça, c'est quand même à souligner positivement, les policiers ont averti la femme que c'était une relation qui était toxique, qu'elle devrait se séparer de cet homme-là. Peu importe les raisons, elle ne l'a pas fait. Mais il y a également la belle famille qui s'est ingérée. Il y a un oncle de cet homme-là qui est parti d'Algérie pour venir au Québec pour lui dire, là, il va te tuer, là.
Un oncle médecin, si
oui,
j'ai bien compris.
Exactement.
Qui vient d'Algérie et qui dit à la femme, lâche-le, il va te tuer. Il est dangereux. C'est pas seulement, comment je dirais, c'est pas un crime qui est arrivé parce que c'était un étranger avec une Québécoise.
Non, non, non.
Les autres étrangers de sa famille disaient que ce gars-là était pas normal.
Il a fait le voyage d'Algérie. Excuse-moi, ouais. C'est quelques heures d'avion et beaucoup de dollars investis pour venir avertir cette jeune femme-là de se séparer. Puis à un moment donné, bien, ça a complètement explosé. L'homme est arrivé dans
la maison.
Elle
est tombée enceinte du troisième enfant qu'il ne voulait pas.
Exactement.
Elle a refusé d'avorter.
Et voilà pourquoi ça a explosé. Donc, il est arrivé et lui était complètement désaccord avec cette troisième grossesse-là dans la famille. Il disait qu'il n'était pas prêt en tant que couple. En désaccord total, la femme avait déjà peur. Elle dit qu'elle avait caché tous les couteaux dans la vaisselle de la maison cette journée-là. Et finalement, il restait le pic à viande, la rôtie.
La fourchette à barbecue, là.
Exactement, celle-là que vous pouvez imaginer avec les deux pointes très piquantes. Il l'a attaqué directement à l'abdomen, directement dans le ventre. Il a attaqué, en fait, le bébé qu'elle portait pour finalement qu'elle rampe jusqu'au balcon, crie à l'aide, la voisine vient l'aider, s'en va à l'hôpital, réussissent quand même à faire une césarienne puis que l'enfant survive à tout ça, mais il est décédé quelques heures après.
Donc, il a réussi à tuer le bébé.
Oui. Et là, dans une violence incomparable.
Regarde, faut-tu être sauvage? Mais
19 coups.
Qui semble avoir été le déclencheur de ce qui allait mal dans ce couple-là, il y a eu deux phénomènes. D'abord, il a trouvé une job chez Garda qu'il n'estimait pas à la hauteur de son talent et qu'il ne lui donnait pas assez d'heures pour bien faire vivre sa famille. Deuxièmement, il est tombé dans le crack. Fait que t'as pas assez d'heures, t'as pas assez d'argent, mais l'argent que t'as, tu le dépenses
en drogue
pour te défaire le cerveau.
Ouais.
Moi, je pense que la drogue est l'élément premier. Le fait d'être malheureux est extrêmement fort aussi, parce que c'est la femme qui, selon ce qu'on lit dans le journal, le souhaitait beaucoup revenir au Québec auprès de sa famille. Lui, il était pas trop chaud à l'idée. Finalement, bon, on dit, OK, c'est bon, on va l'essayer, mais tu vois qu'il n'a jamais été bien intégré. Parce que lui, bon, il n'y avait pas la job de ses rêves, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Puis elle était bien ici. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de dissonances dans ce couple-là qui ont mené à l'agressivité. Puis...
Mais pourquoi tu restes avec un gars qui n'a pas d'allure? Tout le monde te dit qu'il n'a pas d'allure, puis tu restes avec lui. Faut-tu manquer de confiance en soi?
Je pensais ça.
Pour accepter ça. Moi, c'est ça qui m'épate le plus, c'est le manque de confiance en soi.
La confiance, c'est les enfants.
T'as pas d'allure, on reprendra ensemble quand t'en auras, là. En attendant, je m'en vais.
Elle l'a essayé. Elle l'a laissé, là, à un moment donné. Puis après ça, avoir eu le deuxième enfant, ils sont retournés ensemble. Elle l'a essayé. Je pense que pour plusieurs femmes et parents et hommes, peu importe, là, le fait d'avoir des enfants dans ta tête, c'est essentiel que tu restes auprès de ta famille, que tu restes avec celui avec qui tu as fait des enfants. Il y a quelque chose de fort là-dedans.
Dans l'article du Journal de Québec, dans lequel ils ont une entrevue avec cette femme-là qui raconte ce que tu viens de nous raconter, ça se termine d'ailleurs d'une façon un peu étrange où on dit qu'il a plaidé coupable au meurtre du bébé.
Et de voies de fait graves sur son épouse.
Il semble qu'ils aient pu l'accuser de meurtre parce que le bébé est né vivant et mort des suites des blessures.
Mm-hmm. Non, il a comme vécu pendant
il
un instant.
Il a vécu
là.
Assez longtemps hors du sein de sa mère pour qu'on puisse le considérer comme un être vivant.
Exact.
Si l'enfant était mort dans le ventre de sa mère, on n'aurait jamais pu l'accuser de ça.
Ouais.
Comment on aurait pu l'accuser de voies de fait graves.
Fait quasiment bien que cet enfant-là ait pu voir la lueur du jour. Là, dans ce cas-ci, ben oui, parce que les accusations sont beaucoup plus sévères. Un homme comme ça, tu veux qu'il paie la totalité de ses actes. Là.
Ouais. Mais je suis obligée de te dire, maudite drogue.
Ouais.
Maudite drogue. Qu'est-ce qu'ils ont le monde à se mettre des affaires d'eux-mêmes dans le cœur, dans le cerveau, dans les veines, dans le sang? Qu'est-ce qu'on cherche avec ça?
Ben en fait, c'est la première fois qui est la plus dommageable. Là. Ça veut dire c'est l'influence, c'est la recherche d'émotions, c'est le vide total, le fait d'être malheureux. C'est la première fois où t'en consommes qui est la plus néfaste parce que par la suite, c'est juste le cercle vicieux de la dépendance. Puis la dépendance, essaie de lutter contre ça, là. Ça va te prendre tout le courage du monde.
Elle l'avait convaincu, semble-t-il, d'aller suivre une cure de désintox.
Mais il n'est jamais allé.
Mais il ne s'est jamais présenté sur place. Il a dit oui, puis il n'est pas allé.
Oui, comme dans Mes Couples. Quelqu'un nous dit, on dirait la série Le Monstre, votre histoire. Effectivement, moi aussi, ça me fait penser à ça quand je lisais l'article ce matin. Le Monstre, c'est une série qui passe actuellement, là, mais que vous pouvez trouver sur tout.tv, mais qui est aussi un livre avant tout et une histoire vraie. Celle d'Ingrid Falaise là, qui avait passé notamment à Tout le monde en parle. La petite blonde là, que vous avez vue, la comédienne, qui a vécu quelque chose dans le genre, mais du moins, elle est partie avant la grosse violence.
Oui. Puis tu vois, ce qui me décourage un peu, moi, c'est de voir que cet esprit de possessivité habite pas seulement les vieilles. Moi, je pensais que c'était de ma génération. Comprends-tu? Les machos de ma génération. Mais beaucoup de jeunes sont encore comme ça.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, des
fois? Tu m'appartiens, puis je vais décider pour toi.
Non, mon Dieu, c'est pas générationnel, ça.
Mais moi, j'espérais que ça le soit.
Non, vraiment pas, Myriam, vraiment pas. Et ça découle beaucoup aussi de la confiance en soi par rapport à l'homme. Là. L'homme en a pas, il a peur qu'elle quitte. Il va tout faire pour te clôturer puis te garder à lui.
Tu sais, on est en train d'assister au film d'horreur de l'histoire d'Hugo Fredette actuellement, là, devant le tribunal. On est en train de raconter le détail, puis etc. C'est la même affaire. Regarde, elle veut te laisser. Laisse-la partir, là. Ça t'appartient pas.
Mais tu sais, on parle des hommes, mais il y a beaucoup de femmes aussi manipulatrices qui vont inventer des grossesses, qui vont inventer ci, ça, juste pour que l'homme reste auprès d'elle. C'est pas réservé à un sexe.
Des femmes possessives, tu m'appartiens, puis
les gens. Tu vas briser ma vie.
Les gens n'appartiennent pas. C'est pour ça que moi, je suis pour qu'on se laisse par texto.
Elle revient avec ça. Elle veut vraiment gagner son point.
Parce que, à partir du moment où l'un des deux a pris la décision qu'il prenait le large, ça s'arrête là. Il n'y a pas de discussion possible.
Ben non, il va revenir à te voir pareil.
Non,
il n'y
a pas de discussion possible.
Jaloux, puis tout ça. Même si tu le laisses par texto, il va revenir. Voyons, il sait où tu habites.
Il n'y a pas de discussion possible. À partir du moment dans un couple où un des deux dit « je m'en vais », ça s'arrête là.
On va la laisser croire.
Ça devrait s'arrêter là. Enfin, ça devrait.
Ça
devrait s'arrêter là. Bon, OK. Alexis, de quoi tu veux me parler?
Ben, il y a deux petites affaires dont je veux te jaser dans le monde du sport. D'abord, la suspension à Evgeny Kuznetsov. J'ai pas le choix de revenir là-dessus, là, parce que c'est du grand...
Raconte, parce que je suis pas au courant.
C'est du grand charabia de la Ligue nationale de hockey. Evgeny Kuznetsov, c'est un joueur russe, d'abord. C'est quand même important de le mentionner dans l'histoire. Il s'est fait prendre lors des championnats mondiaux en mai dernier, cet été. À la fin d'un match, test antidopage, se fait pogner, cocaïne dans le sang. La Fédération internationale de hockey regarde les résultats. Bon, ben écoute, Evgeny, de la cocaïne, va falloir te suspendre. Et là, ben, la Fédération internationale, ça fait partie, c'est conjoint avec le Comité olympique et tout ça, et les Russes, ils en ont ras-le-bol, là, avec leur dopage. 4 ans de suspension pour Evgeny Kuznetsov.
Donc, il pourra pas représenter son pays aux Olympiques et il ne pourra plus jouer dans les mondiaux hockey pendant 4 ans.
C'est ça, parce que souvent, l'été, quand la saison de la Ligue nationale se termine, souvent, il y a un championnat mondial, les joueurs peuvent aller représenter leur pays. Effectivement, qu'il pourra plus. Là, on se demandait ce que la Ligue nationale allait faire avec ça. Puis là, eux, au début, c'était de dire, ben, en même temps, c'est pas eux autres, parce que c'est pas eux qui ont fait passer le test antidopage. C'est qu'on peut, on le suspendra peut-être pas. Hier, la Ligue nationale a laissé savoir qu'ils suspendaient Evgeny Kuznetsov.
Ah oui, ils ont changé d'idée.
Ben, ils l'ont suspendu pour 4 matchs. Mais ils disent même pas pourquoi. C'est un peu ridicule. Ils disent qu'ils l'ont suspendu, je vais te retrouver, pour conduite inappropriée. C'est okay. le terme exact qu'ils ont utilisé. Parce qu'ils veulent pas faire référence exactement au dossier, mais c'est clairement ça. Mais ils l'ont suspendu 4 matchs. 4 matchs pour dopage. Je veux dire...
Ça me fait penser aux écoles qui renvoient les enfants mal commodes à la maison pour qu'ils aient joué au Nintendo ou au PlayStation dans le cadre.
Mais ça ressemble à ça. Tu sais, s'il n'est pas clean sur la scène internationale, pourquoi il le serait dans la Ligue nationale de hockey? Et je pense qu'on aime se faire accroire. C'est pour ça que
on s'en fiche, dans le fond.
Ben oui.
Est-ce que le fait de prendre de la cocaïne le rend meilleur que les autres sur la glace?
Ben, plus allumé, peut-être, là.
Ben.
Plus allumé?
La cocaïne,
c'est pas mal. Si tu prends de la cocaïne, en tout cas, tu vas avoir les deux yeux ben allumés.
Je vais en prendre samedi prochain, puis tu vas voir si le show de samedi.
T'arrêteras plus, t'auras même pas la chance de parler, Myriam.
Ah ouais? Ça te rend très allumé. Mais j'ai jamais consommé ça, mais j'ai vu des gens en consommer.
Mais physiquement, parce que c'est un jeu physique, le hockey, là. Bon, ça le rend-tu vraiment meilleur que les autres sur la glace?
Bon, c'est une question qui se pose.
Moi, ce que je ferais tout simplement à la place de la Ligue, c'est de dire, regarde, on va te passer un test antidopage à tous les matchs.
Ben oui, comme ça, il est impossible qu'ils en prennent. Puis ils ne veulent pas se faire pogner.
Tant qu'on va te pogner, tu vas avoir, à chaque fois, tu vas avoir 4 matchs de suspension.
Ouais. Ah, c'est parfait, ça.
Fait que là, il va être suspendu tant et aussi longtemps qu'il en prend.
Puis c'est parce que c'est pas le premier joueur à consommer de la drogue. Là. C'est qu'on aime se faire croire que le hockey est un sport beaucoup plus clean que les autres sports. Mais la réalité, là, c'est que des joueurs qui se sont fait prendre avec de la drogue, il y en a eu pas mal. Là. Puis des joueurs à traverser les douanes avec de la drogue, il y en a eu aussi.
La Ligue nationale de hockey a, comme dirait Gérard Deltel, la tête dans l'autruche.
Mais
ça fait son bonheur. Puis quelque part, est-ce qu'on a envie de se priver de voir un bon joueur sur la glace?
Ouais.
Mais moi, la consommation sur la glace, je suis totalement contre. Mais si tu le fais dans ta vie personnelle, en dehors de la saison, mettons, ou des matchs, ça me fasse quoi?
Myriam, tu poses une bonne question, puis je veux l'amener ailleurs, puis je vais pouvoir faire un lien avec un autre sujet. Est-ce qu'on veut se priver d'un bon joueur sur la glace? Un joueur qui est accusé de viol dans le monde du football, est-ce qu'on veut le voir sur le terrain?
Pourquoi pas?
Parce que c'est le cas d'Antonio Brown actuellement. Lui est poursuivi au civil, par contre, faut le dire, pour avoir agressé sexuellement son ancienne entraîneuse qui l'accuse de viol et de harcèlement.
Ça lui permet de gagner du cash qu'il va pouvoir donner à sa victime.
Non, moi, privé, terminé. Terminer ton sport. Parce que on trouve déjà que le système judiciaire n'est pas assez sévère pour ce genre d'actes-là ou encore que ça traîne en justice.
Il est accusé, là, il n'est pas reconnu.
Je sais, mais il va y avoir quand même, il va y avoir quelque chose, il va y avoir justice, il va se passer quelque chose. Au moment où tu es accusé, tu n'as même pas plaidé coupable ou rien, au moment que tu es accusé, tu n'as plus ce pouvoir-là d'aller divertir des gens puis d'être leader de quelqu'un.
On a, nous, dans nos contrats, l'obligation. Effectivement, de garder... D'ailleurs, Nathalie Normando a perdu sa job parce qu'elle a été arrêtée par l'UPAC.
Mm-hmm. Mm-hmm.
On a l'obligation, effectivement, de faire en sorte que notre employeur n'ait pas honte de nous autres. Parce qu'on gagne notre vie avec notre réputation. Les joueurs de hockey, les joueurs de football, de baseball, ils gagnent leur vie avec leurs muscles.
Non, mais Myriam, c'est criminel.
Ben, une fois qu'ils sont condamnés, je comprends. Avant qu'ils soient condamnés... Pourquoi est-ce que je m'en passerais?
Mais Normando n'a pas été condamné.
Non. Non, parce que nous, on a dans nos contrats des clauses qui prévoient ça. Est-ce que dans les contrats de la Ligue nationale de football, on prévoit, si tu es accusé d'un crime quelconque, on te suspend?
Ça devrait être fait.
Est-ce que ça dépend ce qu'il y a dans leur contrat, comprends-tu? Mm-hmm. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit nécessaire.
Position personnelle, ça devrait l'être.
Mais parce que souvent, ça passe par ce qu'on appelle la liste d'exemption du commissaire, qui lui dit, garde, ce joueur-là, il jouera pas. Là, la dernière liste d'exemption, le nom d'Antonio Brown était pas dessus. Donc, les Patriotes, parce que les Patriotes l'ont signé après toutes les popées dont
j'ai
raconté.
C'est encore les Patriotes?
Ah oui, c'est encore les Patriotes. Les Patriotes ont regardé ça aller. Lui s'est fait libérer, l'ont ramassé, l'ont fait signer 15 millions de dollars, l'ont ramassé. Et là, c'est accusé de viol. Est à la pratique cette semaine. Tout le monde se scandalise de voir qu'il est à la pratique. Les Patriotes se disent, ben oui, mais... D'autres, il y a personne qui nous a dit qu'il était suspendu. Il est pas sur la liste du commissaire qui dit qu'il peut pas jouer. Donc là, il a fait le voyage avec l'équipe et vraisemblablement, il va jouer avec les Dolphins cet après-midi. Là.
Puis, on l'applaudira pas, là. Mais s'il peut gagner assez d'argent pour rembourser sa victime, au moins pour dédommager sa victime, c'est parce que à partir du moment où tu les chasses, tu les prives de revenus, tu prives aussi la victime de toute possibilité de récupérer du fric.
Ouais, mais là, c'est pas juste financier. Là. Je sais que c'est l'appât du gain, puis à un moment donné, ouais, si t'as vécu des situations, t'as besoin d'aide psychologique, ça va te coûter de l'argent, donc tu vas aller en chercher, tu vas aller engruger un petit peu à quelque part. Mais la seule nuance que je serais prête à faire, moi, dans ce cas-là, c'est que tant que c'est pas reconnu coupable, mettons, il est accusé, là, en ce moment.
Ouais.
Tu as le droit de pratiquer, tu as le droit de suivre l'équipe pour pas perdre la capacité physique que tu as, pour pas perdre tes jeux, mais je veux pas te voir, par exemple, jouer un match.
Ben là, tout le moins, pour l'instant, ce que je
Pourquoi
peux vous donner...
Pourquoi tu veux pas le voir jouer un match?
Parce que c'est le mettre publiquement face à des gens qui vont pouvoir le prendre pour un idole et quoi que ce soit quand il est actuellement accusé criminel.
Les gens sont capables de juger.
Oh, je
trouve le personnage, par exemple, de Claude Jutras absolument dégueulasse, mais je pense que son œuvre est une œuvre importante.
Oui, oui.
Roman Polanski a produit de très beaux films et c'est un salaud personnellement.
Mais ils ont été punis aussi sur la place publique.
Non, Polanski, au contraire. Les Européens le mettent sur une tribune.
Jutras était quand même puni sur la place publique. Oui. Là, tu as pris celui qui n'a pas été puni. Mais...
De façon posthume.
Ben oui, parce qu'il n'était plus des nôtres. Bon.
Mais tu comprends, c'est on est capable de faire la différence entre l'individu et ce qu'il fait.
Moi, c'est pas le public.
L'individu et son œuvre.
Je sais pas. Hein?
C'est pas le public que je prends pour des gens incapables de juger puis d'avoir une conscience. Là. C'est pas du tout le public. Je pense juste c'est l'image publique en arrière de ça. T'as des jeunes aussi qui vont triper sur le joueur puis qui doivent comprendre que si tu as des actes répréhensibles, ben tu perds une certaine possibilité dans la vie.
Un joueur qui se dope pour être meilleur que les autres dans son sport, moi, je le suspends sans la moindre hésitation. Parce que là, il triche. Il se donne des moyens artificiels d'être meilleur que les autres.
Ouais.
Un joueur qui est accusé d'un crime dont il n'est pas encore reconnu coupable, je ne le suspends pas.
Tu vois, récemment, il y a eu le cas de... récemment, c'est dans les derniers mois, années, là, Ray Rice est un joueur de la NFL, puis il y en a plusieurs cas là, dans la NFL. Lui, il y avait des images là, de caméras qui avaient été prises dans un ascenseur et dans un hôtel où tu le voyais clairement battre sa conjointe. Là. Mm. Puis tu le voyais la tirer par les cheveux dans l'ascenseur. Puis de mémoire, je me souviens pas jusqu'où le dossier judiciarisé s'est rendu. Mais tu vois ces images-là. Et pourtant, Ray Rice a continué de jouer et a continué d'être adulé. Je veux dire, que ce gars-là soit accusé ou non, là, tu le vois faire ce genre de geste-là. Moi, j'ai un problème moral à ce qu'on adule un joueur comme ça et qu'on l'applaudisse sur le terrain pour ses performances sportives, alors que l'individu est une crapule.
Moi, que le public l'adule encore puis trippe sur lui pour ses compétences sportives, ça m'est égal. Par contre, que nous, en tant qu'institution, population, citoyens, on permette à ce genre d'humain-là de rayonner encore en société, ça me dérange.
Pour pas me mettre dans la marge, je nommerai personne. Mais des gens qu'on admire et qui ont, à un moment donné, pété une coche sur leur conjointe, il y en a.
Mais le jour où je saurai qui, comment, pourquoi, et que ce sera vrai...
Tu le sais.
Ce sera plus du tout des gens que je vais idolâtrer.
Tu le sais. Mais, tu sais, c'est... Ça arrive. La question, c'est est-ce qu'on doit bannir l'œuvre et l'homme parce que une partie de l'homme nous déplaît.
Mais c'est que je pense que tu mêles les cartes parce qu'on n'a pas banni l'œuvre ou les compétences physiques d'un certain joueur. On trouve encore qu'il est un excellent joueur. On trouve encore
mais on lui permet pas de jouer.
Ouais, mais c'est ça.
On va attendre qu'il soit jugé. Une fois qu'il est jugé, là, je reconnais.
Ah, mettez-le pas sur le match. Permettez-lui de pratiquer.
OK. Les musulmans vont avoir leur cimetière. Le ministère de l'Environnement a fini de têter.
Oui.
J'ai pas très bien compris pourquoi on têtait longtemps de même. Je comprends pas. En fait, c'est un dossier que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les musulmans ont besoin d'un cimetière rien qu'eux autres. De la même manière que je comprends pas très bien pourquoi il y a un cimetière juif à Québec. Tu sais, quand je marche sur le René Lévesque, puis que je passe entre le cimetière Saint-Michel de Sillery à droite puis le cimetière juif à gauche, je comprends pas pourquoi on a besoin de sépultures exclusives pour une religion. Mais c'est pas la première ni la dernière chose que je comprends pas dans la vie. Puis ça me fait pas mal aux os, moi, qu'ils aient leur cimetière eux autres. Le ministère de l'Environnement semblait dire une nappe phréatique, etc. C'est parce que, tu sais, dans des terrains vagues, là, il y a toutes sortes d'animaux qui meurent dans le fond de leur terrier aussi puis qui contaminent la nappe phréatique. Je ne comprends pas comment un cadavre humain peut être pire qu'un cadavre d'animal sur le plan de l'environnement. Comprends-tu?
Oui.
Bon, je trouve que c'est du têtage. Ça a pris longtemps. Ça a pris longtemps et ça discrédite, à mon avis, la fonction publique que ça ait pris autant de temps.
Ça a été vendu par la ville en 2017. Là.
Garde. Ça te prend 2 ans pour dire que ça va prendre des tonnes de terre, protéger la nappe phréatique. Garde. Allume, là. C'est quand même pas si exceptionnel que ça qu'il y ait des cimetières. Je comprends que les rites musulmans sont un peu différents et qu'actuellement, en ne leur donnant pas un lieu de sépulture qui leur convienne, on les oblige à briser leur propre rite. Normalement, ils prennent 24 heures entre le moment du décès et le moment où on enterre. Ils font de la crémation aussi, là. On enterre ou on brûle le corps du défunt. Je comprends aussi que dans la disposition du corps dans sa tombe, il semble pas y avoir de cercueil, hein. Ça semble être un drap, un linceul dans lequel on les... Je comprends qu'il y a une orientation, que peut-être que dans nos cimetières traditionnels, l'orientation, c'est parce qu'il doit être légèrement tourné vers la Mecque. Okay. Tout ça fait partie des rites religieux. Puis j'ai rien à dire des rites religieux. Je pense qu'on aurait très bien pu s'organiser pour réserver un bout de cimetière standard aux musulmans. Ça aurait été moins compliqué. J'ai un peu de difficulté avec les commentaires que j'ai entendus hier. Certains disaient, là, on va vraiment se sentir chez nous. Parce que tu peux te faire enterrer dans un lieu où il y a juste ta religion, tu te sens plus chez vous? Moi, là, personnellement, là, vous ferez ce que vous voulez avec mon cadavre, là. Je m'en sacre. Je m'en fous complètement. Mettez-moi avec des musulmans, des hindous, des catholiques, des juifs, n'importe quoi. Mettez-moi dans un terrier avec des marmottes, ça me fait rien, là. T'sais, mais je ne comprends pas cette espèce d'attachement à ces rites-là. Mais, garde, si ça leur fait du bien, pourquoi pas?
Ben, c'est la foi qui est grande. C'est la foi qui prévaut sur tout, là. En fait, c'est ta croyance qui a tellement pris de place que toi, il n'y a pas d'autre option dans ta tête, là. Toi, t'es catholique, Myriam, dis-tu?
Je ne sais pas ce que je suis.
Ben, c'est ça.
Moi, je ne sais pas si Dieu existe. Puis je le saurai bien assez tôt. Puis vous ferez de l'acharnement thérapeutique pour que je le sache le plus tard possible, OK? Moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup agacé cette semaine dans les nouvelles, d'entendre « il a pu mourir dans la dignité ». Excuse-moi, la dignité, ce n'est pas seulement d'accélérer la mort. C'est aussi, pendant certains cas, de l'accepter comme elle vient. La dignité est différente pour chaque personne. Ça m'agace énormément d'entendre dire que mourir dans la dignité, c'est forcément se faire l'injection létale pour accélérer les choses. La dignité, ça dépend de chaque individu. Puis j'ose espérer, parce que c'est ça le danger de soi-disant mourir dans la dignité, du droit à l'euthanasie auquel je reconnais aux individus. Le danger, c'est qu'on finisse par sabrer dans les soins palliatifs en disant « débarrasse le plancher, mes mères s'égale ».
Ouais, ça devient des motifs économiques quasiment.
Mes mères s'égale finissent par dire « je serais bien mieux d'avoir l'injection que d'endurer ce que je vais endurer ».
Tu vas loin. Oui, je comprends, mais ça, c'est une crainte qui est loin, ça. Je trouve ça... Non, mais les motifs vont toujours passer avant. Les motifs vont toujours passer avant, de toute manière. Les gens à sa place publique vont... alerter de ça. Ils vont commencer à chialer. Les gouvernements ne voudront pas qu'on en parle dans les médias. Il y a des histoires. Si ça arrive, il y a des histoires qui vont sortir, là.
Oui, mais ce qu'on est en train de faire de façon pernicieuse, je dirais, c'est de faire croire que la dignité n'existe que dans un seul contexte. Moi, je trouve extrêmement digne les gens qui s'en vont à Michel Sarrazin et qui laissent la mort venir s'installer chez eux.
Mais pour d'autres, c'est pas ça. Pour d'autres,
c'est autre chose.
C'est de cesser de souffrir.
Sauf que auprès de je te ferai remarquer, Pascal, que dans ce qu'on a entendu dans la dernière semaine, le mot dignité est toujours venu avec « j'accélère les choses ».
Mais parce que plusieurs témoignent qu'ils veulent pas souffrir, veulent arrêter pour eux le manque de dignité, que leurs proches s'occupent de leur faire la toilette, que leurs proches s'occupent de crime leurs besoins. Là. Ça me tente-tu, moi, que mes enfants, plus tard, là, s'occupent de me torcher, on va dire comme ça?
La réponse pour moi, c'est oui. Moi, la réponse pour toi, c'est non. Donc, ma dignité et la tienne sont différentes.
Et les deux doivent être
respectées. Actuellement, dans la littérature médiatique, dans ce que tu as lu dans la dernière semaine, on associe la dignité à un seul choix. Et ça m'écœure un petit peu. Mais... il faut se rappeler régulièrement que la dignité, ce n'est pas un seul choix, c'est le choix individuel.
Mais je pense qu'on en parle comme ça et on a cette nomenclature-là parce qu'actuellement, c'est le débat qui est vraiment régi en société, mais que tu vas toujours avoir le choix quand même. Par contre, ton risque pourrait arriver, mais je pense qu'il est extrêmement loin et que jamais on va se rendre là, jamais ça va être acceptable de se laisser pousser dans le dos à accepter la petite piqûre létale.
Mais est-ce que mourir dans la dignité, c'était pas le nom du projet de loi, ça, à la base, de mémoire?
Oui, puis c'est ça, c'était, à mon avis, moi, c'était, pour moi, c'était un scandale. D'ailleurs, dans le projet de loi, une des choses que le projet de loi devait protéger et doit protéger, c'est les soins palliatifs. C'est le droit pour chacun de choisir la façon dont il sort. C'est ça, la dignité.
Ça, absolument. Bon.
Et c'est pour ça que cette semaine, en entendant la dignité seulement d'un bord, ça m'a un peu agacé, parce que je trouve qu'on induit de façon pernicieuse une notion qui n'est pas juste. Mais, moi, en tout cas, moi, acharnement thérapeutique, OK? Je l'ai dit publiquement, là.
Acharnez-vous.
Tu vas loin, mais merci de nous faire réfléchir quand
tant
même.
Tant que je suis capable de sourire une fois par jour, je veux rester vivante, OK?
Parfait, on va payer quelqu'un qui pour te laver.
Ah, je pensais que t'allais payer quelqu'un me faire broyer. Il est 7h31.
Que Québec se lève.
De retour, après la pause. Bonsoir, les sportifs.
Benoît Brunet, Ryan Peeling ou Nick Suzuki, ou les deux, percent l'aliment?
Moi, non. Pour moi, là, ça va prendre un camp d'entraînement exceptionnel pour les deux, pour qu'ils débutent la saison à Montréal. Des fois, j'aime mieux qu'un joueur ait brûlé la Ligue américaine. Dans le cas de Peeling, je veux pas le voir sur un quatrième trio. C'est sur un quatrième trio qui s'en aille à Laval, qui progresse, qui devienne un joueur dominant, qui vienne nous aider dans le futur.